point de mire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Constance Hubert.
Bienvenue dans ce point de mire consacré à la célébration du centenaire de la mort d'Henri-Alexandre Vallon. Pour célébrer ce centenaire, l'Académie des sciences morales et politiques et l'Académie des inscriptions et belles-lettres ont organisé un colloque le 11 octobre 2004 dans la grande salle des séances. Ce colloque était présidé par M. Jean Cluzel, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, et M. Jean Leclan, secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Si l'œuvre universitaire et politique d'Henri-Alexandre Vallon furent largement évoquées, M. Jean Cluzel, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, apporta un double éclairage à la vie et l'œuvre d'Henri-Alexandre Vallon, à la fois républicain et catholique. C'est à travers la figure de Jeanne d'Arc que Jean Cluzel évoque ce double aspect.
Je ne suis né pour célébrer les saints. Ma voix est faible et même un peu profane. Il faut pourtant vous chanter cette Jeanne qui fit, dit-on, des prodiges divins. Pour ou contre Voltaire, tel est pour une bonne part l'enjeu politique et symbolique que représente Jeanne d'Arc à l'époque d'Henri Vallon, plus de 4 siècles après. Bien avant d'être l'homme d'un amendement, ne m'en veuillez pas, cher Roland Drago, Vallon fut celui d'une biographie, celle de Jeanne d'Arc, parue en 1860, rééditée 6 fois dans son édition intégrale, bientôt suivie d'une version abrégée et surtout d'une remarquable édition illustrée. Sa diffusion, on ne le sait plus aujourd'hui, hélas, sa diffusion en fut considérable, autant que son efficacité, puisque, mesdames et messieurs, cette prise de position, celle d'Henri Vallon, fut capitale dans le processus de béatification de Jeanne d'Arc. Vallon, certes, on l'a rappelé, ce matin, avait publié plusieurs ouvrages sur l'histoire sainte et les Écritures, ainsi qu'une réfutation de la vie de Jésus de Renan. On pouvait donc estimer que ces enjeux d'exégèse et d'histoire étaient pour lui les plus importants. Eh bien, il n'en était rien, bien au contraire. Et pour lui, dans son œuvre, la biographie de Jeanne d'Arc se trouve à une place primordiale. Jeanne d'Arc est à la croisée de ses chemins personnels, là où se rencontrent son œuvre d'historien, son action d'homme politique et son engagement catholique. Afin, me semble-t-il, de concilier la rigueur de la méthode historique à la ferveur de sa voie chrétienne. Bien plus, il espérait que cette biographie, que cette action lui permettrait de réconcilier son pays et son Église. Vallon voulait que la canonisation de Jeanne assura les retrouvailles entre Rome et Paris. Sa vocation fut donc d'œuvrer en la matière à la rencontre des deux Jeanne d'Arc, celle du Panthéon républicain et celle du paradis catholique, afin de rendre possible la réunion de deux cortèges jusque-là parallèles, mais qui s'étaient formés l'un et l'autre derrière la même figure emblématique. D'un côté, les fidèles de l'héroïne populaire et patriotique, et de l'autre, les dévots de la sainte visionnaire et vertueuse. Ou si l'on veut, d'un côté, les partisans de la France révolutionnaire, et de l'autre, les serviteurs de la fille aînée de l'Église. Certes, on le sait, le grand inventeur de la Jeanne laïque et romantique fut Michelet. Avec lui, c'est une Jeanne de gauche qui accable la monarchie, le clergé, la noblesse pour mieux exalter le peuple. Et le mouvement romantique, écrit Georges Goyot, le mouvement romantique aimait d'une passion quelquefois brumeuse les apparitions historiques où s'incarnait l'âme des peuples, les personnalités où des consciences collectives se résumaient et s'exprimaient. Il fut séduit par Jeanne et l'on vit enclore en 1841 l'hymne de Michelet. Ainsi, Michelet ramène Jeanne sur Terre. Elle a bien existé, figure humaine, très humaine, vulnérable, figure populaire surtout. La Jeanne de Michelet est fille du peuple et non fille du ciel. Il conclut par ces mots, « La Vierge secourable des batailles que les chevaliers appelaient, attendaient d'en haut, elle fut ici-bas. » Et c'était une simple fille des campagnes, du pauvre peuple de France, car il y eut un peuple, il y eut une France, cette dernière figure du passé fut aussi la première du temps qui commençait, en elle apparurent à la fois la Vierge. Et il terminait par ces mots, la Vierge est déjà la patrie. Ainsi, Michelet confond Jeanne et son identité populaire pour mieux l'élever sur les autels rassemblés de la patrie et du peuple. Pour lui, l'histoire de Jeanne est comme une charnière de l'histoire de France. Voici, dit-il, la dernière figure du passé et la première des temps modernes. Voici l'incarnation du peuple. Voici une femme qui, nonobstant sa virginité, donne naissance à la patrie. Et jusque dans la mort effroyable de cette martyre trahie par les siens, Michelet laisse apercevoir, en filigrane de son portrait de Jeanne, une véritable figure christique. Le sauveur de la France devait être une femme, résume-t-il. La France était femme elle-même. Arrivons, si vous le voulez bien, à l'aspect scientifique des travaux d'Henri Vallon. En 1840, le protestant François Guizot, au nom de la Société d'Histoire de France, chargeait un jeune et brillant chartiste, chacun a son nom sur les lèvres, Jules Quichera, de préparer l'édition complète des procès de Jeanne d'Arc. Eh oui, cela n'avait pas encore été fait. 5 volumes furent publiés, immédiatement reconnus comme des monuments d'érudition scientifique et devenus rapidement la référence obligée de tous les historiens, y compris les catholiques, en dépit du parti pris volontiers anticlérical de Quichera. En fait, mesdames et messieurs, 3 questions se posaient aux historiens à l'époque. Première question, de qui Jeanne tenait-elle sa mission ? Deuxième question, cette mission était-elle de libérer l'ensemble du territoire ou seulement de libérer Orléans et de conduire le roi à Reims ? Troisième question, qui porte la responsabilité de la condamnation ? 3 questions pour les historiens. Mais derrière les débats érudits apparaissent les enjeux politiques et symboliques. Avec de forts arguments, le camp laïque défendait l'idée d'une mission nationale de Jeanne sans inspiration surnaturelle, mais seulement patriotique. Mission vouée à libérer toute la France, mais mission entravée par la monarchie et l'Église responsable de sa mort. Henri Vallon vint donc à point nommé sortir le débat de ses fondrières. Et si l'on en croit l'historien allemand Grumbach, auteur de Jeanne d'Arc à travers les siècles, Vallon, d'après lui, est l'auteur qui marqua le plus l'historiographie catholique de Jeanne d'Arc pendant la seconde moitié du XIXe siècle et contribua le plus à son évolution. En effet, Vallon, véritablement le premier parmi les historiens catholiques, appela à prendre acte des travaux de Quichera et à renoncer aux stéréotypes catholiques même si lui, Vallon, persistait à croire qu'une part de cette histoire échappait aux démonstrations rationnelles. Et dans le même temps, il rompit avec les partis pris des monarchistes légitimistes. Oui, écrivait-il, si le peuple avait foi en Jeanne, les grands se servaient d'elle sans la croire. Malheureusement pour la France, ajoute-t-il, le roi et ses conseillers ne partagèrent pas l'enthousiasme populaire et Jeanne fut victime d'une coupable indifférence de la part des puissants. Donc, sur l'étendue de la mission de Jeanne, Vallon paraît se rapprocher de la théorie laïque, antimonarchiste. Il cite même les paroles de son héroïne dans sa fameuse lettre aux Anglais, avant la libération, au départ de la libération d'Orléans. Il cite « Je suis si venu pour vous bouter hors de toute France ». Mais Vallon donne alors sa propre formulation. En un mot, dit-il, la mission de Jeanne avait pour signe la délivrance d'Orléans et pour but l'expulsion des Anglais. Sa conclusion, elle a donné son signe, elle n'a pas atteint son but. Mais le but devait être atteint et sa mission ne fut pas manquée. Jeanne, finalement, conclut Vallon sur ce point, Jeanne, finalement, a donc bien rempli sa mission. Pour autant, notre auteur n'adoptait pas, et loin s'en faut, toute la vision des laïcs. Il réfutait même l'idée selon laquelle l'Église était coupable du martyre de Jeanne. Selon lui, elle a été condamnée par un évêque chassé comme un ennemi par le contre-coup de ses victoires et constitué son juge par le choix de ses ennemis. Jeanne n'a pas été condamnée par l'Église, mais Jeanne a été réhabilitée par l'Église. Voilà le jugement d'Henri Vallon. En véritable biographe, et non comme un homme de parti, il ne se contentait pas de magnifier l'amour de Jeanne pour la patrie, mais il montrait tout à la fois sa piété et ses vertus chrétiennes. Il représentait son héroïne véritablement comme une sainte. Jeanne, écrit-il, Jeanne a été par toute sa vie une sainte et par sa mort une martyre. Martyre de son amour, de la patrie, martyre de sa pudeur et de sa foi en celui qui l'envoya pour sauver la France. La conception de Vallon fut en définitive déterminante pour permettre aux catholiques de retrouver Jeanne d'Arc. Non seulement parce qu'il avait détaché l'enjeu historiographique de l'enjeu politique et du parti légitimiste, et vous comprenez bien pourquoi c'est important, mais aussi parce qu'il avait mis l'accent sur la personnalité profonde de Jeanne. Et en cela, il ouvrait presque tout naturellement, même si ça lui a fallu beaucoup de temps, il ouvrait presque naturellement la voie à la béatification d'abord, à la canonisation ensuite. Cette canonisation n'intervint qu'en 1920, 60 ans après la première édition de la Jeanne de Vallon, mais dès les années 1860, son œuvre avait produit ses premiers résultats parce qu'il avait tout simplement lancé le processus de béatification, fruit d'une collaboration intelligente, confiante, avec l'évêque d'Orléans, vous avez traduit, Monseigneur Dupanloup. Vallon et Monseigneur Dupanloup étaient deux libéraux. L'un et l'autre voyaient dans le symbole de Jeanne un élément de dialogue et de rapprochement entre l'Église et l'État. Et dès 1855, Monseigneur Dupanloup avait évoqué la sainteté de Jeanne d'Arc et Vallon procura à l'évêque les arguments historiques qui, sans lui, eussent fait défaut. Qu'allait-il se passer en 1867 pour que tout se précipite à ce moment-là ? C'est d'abord le contexte international. La question romaine, chacun le sait, était vive au lendemain de la tentative d'invasion de Rome par Garibaldi. Vallon et Monseigneur du Banlou estimaient nécessaire de renforcer l'image de la papauté en France et de la rendre sympathique à l'opinion de toute la nation, afin que Napoléon III demeurât le défenseur de la Rome pontificale. C'était ça pour l'ambiance internationale. Mais en France, une autre circonstance eut son importance. Au cours de l'été 1867, le journal anticlérical Le Siècle avait lancé une souscription pour édifier un monument à la gloire de Voltaire. Et vous comprendrez pourquoi j'ai commencé ce propos en citant la Pucelle d'Orléans. Et cette initiative fut considérée comme un affront. La béatification de Jeanne d'Arc devait donc être la réponse normale des catholiques aux voltairiens. Et Vallon, de son côté, cherchait par une revanche sur les anticléricaux la façon de faire avancer les choses. Il ne cherchait pas davantage une appropriation exclusive par l'Église, il voulait tout simplement, mais quelle difficulté, rééquilibrer l'héroïne patriotique par la sainte chrétienne, car à ce moment-là, pensait-il, Jeanne pourrait être admise par tous, et non pas par une seule de ces deux Frances, qui paraissaient véritablement dressées, presque pour l'éternité, l'une contre l'autre. Depuis 1871, la popularité de Jeanne avait pris une ampleur nouvelle en raison de la victoire de l'Allemagne et de l'annexion de l'Alsace-Lorraine. Si vous me permettez, après l'effet Michelet, après l'effet Dupanloup, survint, si l'on peut dire, l'effet Bismarck. Et tout compte dans cette évolution. Mais au-delà du symbole patriotique consensuel, l'interprétation de l'histoire de Jeanne était indissociable des rapports entre l'Église et la République. L'arrivée au pouvoir des Républicains, on l'a si bien dit tout à l'heure, les premières campagnes laïques créèrent d'abord une crispation des catholiques français sur la question du régime républicain. À partir de 1890, le contexte politique et religieux allait cependant évoluer et Léon XIII pouvoir appeler les catholiques français au ralliement à la République. Les républicains modérés, alors au pouvoir, y répondirent en prônant un esprit nouveau à l'égard de l'Église. Et c'est alors que l'on retrouve la procédure lancée par Mgr Dupanloup sur la base des précieuses informations données par notre Henri-Alexandre Vallon, et l'on aboutit à une première étape, modeste encore, mais une étape quand même, Jeanne d'Arc fut proclamée vénérable par le pape Léon XIII le 27 janvier 1894. En juin de la même année, le Sénat votait un projet visant à établir une fête de Jeanne d'Arc, fête du patriotisme. Vallon, là encore, en fut l'un des premiers soutiens. Mais, malgré les nombreux appuis et le vote favorable de la Haute Assemblée, le projet ne fut pas adopté par la Chambre des députés sous le régime, que Roland Drago a si bien rappelé tout à l'heure, le régime du bicamérisme égalitaire selon la Constitution en vigueur. J'insiste sur le bicamérisme égalitaire, car chacun sait que sous la Ve République, ce bicamérisme qui existe n'est pas égalitaire. À partir de 1894, les biographies de Jeanne d'Arc, publiées par les éditeurs catholiques, furent beaucoup plus nombreuses que celles en provenance du monde laïque et libre penseur. Il y a donc une pression plus importante d'un côté que de l'autre. Mais Jeanne restait néanmoins très présente dans les manuels d'histoire de l'école républicaine. Il suffit de penser au petit Lavis, dont Pierre Nora, notre éminent confrère, a montré dans les lieux de mémoire comment il était devenu pour des générations d'enfants une sorte d'évangile de la République. Que l'on songe encore aux 6 millions d'exemplaires, 6 millions, du Tour de la France par deux enfants, qui rend hommage au patriotisme de la jeune Lorraine. Une des gloires, peut-on lire, une des gloires les plus pures de la patrie. Le pseudonyme de l'auteur, Bruno, alors qu'il s'agissait de Madame Alfred Fouillet, le pseudonyme de l'auteur Bruno faisait référence à Giordano Bruno, brûlé vif en 1600 dans la Rome pontificale, et cela pouvait apparaître comme une véritable réminiscence du supplice de Jeanne. Hélas, la crise religieuse s'était à nouveau envenimée en France durant l'affaire Dreyfus, puis sous le ministère Waldeck-Rousseau et surtout sous le ministère Combes. En janvier 1904, Vallon à nouveau monte à la tribune du Sénat pour protester contre la loi d'interdiction de l'enseignement congréganiste. Dans sa grande sagesse, l'académicien, votre prédécesseur, cher confrère, avait bien compris que le combat politique au sujet des congrégations religieuses et de l'école catholique plaçait le pays au bord d'une véritable guerre civile. Ce n'est pas la paix, dit-il, c'est la guerre la plus déplorable, la guerre religieuse qui règne en ce moment dans le pays, et c'est le gouvernement qui en a donné le signal. Amère constatation que Vallon pouvait faire quelques mois avant sa mort, amère constatation de l'échec des espérances qu'il avait placées de tout son cœur, de toute sa foi, dans une réconciliation autour de la figure de Jeanne d'Arc. La béatification, célébrée le 18 avril 1909, 5 ans après la mort de Vallon, hélas, n'inversant pas cette tendance, l'extrême gauche rejetait désormais Jeanne d'Arc, jugée militariste et bondieusarde, tandis que l'extrême droite l'enrôlait dans son nationalisme et son antisémitisme, avec l'espoir de dresser Jeanne contre Marianne. Mais entre les deux extrêmes, Jeanne attirait toujours les plus grands écrivains. On songe à Peggy, dont le retour à la foi chrétienne apparut au grand jour avec l'apparition du mystère de la charité de Jeanne d'Arc, c'était en 1910. L'union sacrée ouvrit alors la voie, après la victoire, à la canonisation de Jeanne, qui fut célébrée le 16 mai 1920 à Rome, en présence, cette fois-ci, des représentants de la République. L'événement permit à la France de tourner la page de la séparation, mais aussi celle des crises religieuses. Eh bien, mesdames et messieurs, c'était l'aboutissement de l'œuvre du sénateur historien, membre et secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. C'est Henri Vallon qui avait patiemment créé les conditions de la canonisation de Jeanne en faisant le symbole de la réconciliation, excluant tout esprit de revanche. Au début des travaux de Vallon, au milieu du XIXe siècle, Jeanne était encore une héroïne, elle n'était pas une sainte. Le réveil de sa mémoire fut, il faut le reconnaître, l'œuvre des laïcs. Puis, les catholiques ont voulu rappeler qu'elle était d'abord chrétienne et de cette manière manifester que l'identité française ne saurait exister sans le christianisme. Mais, pour faire valoir une Jeanne d'Arc acceptable par tous, fallait-il encore l'œuvre d'Henri Vallon, catholique libéral, historien rigoureux, biographe inspiré? Cette Jeanne-là est béatifiée après le premier ralliement, puis canonisée en prévision du second ralliement, en prélude à l'apaisement entre l'Église et la République. Celui qui s'était voué à promouvoir la mémoire de Jeanne d'Arc n'avait guère attiré les biographes jusqu'à ce jour et demeurait pour beaucoup un inconnu. Il faut donc, mesdames et messieurs, savoir gré à mon éminent confrère et ami Jean Leclan, secrétaire perpétuel de l'Académie d'inscription et belles-lettres, d'avoir heureusement, et grâce à vous tous, comblé cette lacune. et le remercier d'avoir eu l'amicale pensée, la confraternelle pensée d'associer à cet hommage l'Académie des sciences morales et politiques. Certes, Jean Leclan s'est illustré par ses recherches archéologiques, chacun le sait, recherches en Égypte, en devenant même la référence française et internationale dans ce domaine. Et de découverte en découverte, cher Jean Leclan, en ce jour, vous nous avez permis de faire en votre compagnie une autre découverte et d'une extrême importance, celle d'Henri-Alexandre Vallon. Oh, cher Jean Leclan, vous n'espérez pas lui trouver une place sous la coupole du Panthéon. Aucun d'entre nous n'en a le pouvoir, mais simplement, vous avez voulu et réussi le faire revivre avec ferveur et reconnaissance et déposer au pied de notre coupole le souvenir d'un homme de paix. J'en termine, mesdames et messieurs, en vous disant que cet homme de paix était aussi un homme de culture, de dialogue et de conviction.
Jean Cluzel, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, lors du colloque célébrant la mort d'Henri-Alexandre Vallon. Vous pouvez retrouver le texte de sa communication sur le site www.asmp.fr.